Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Deuxième cassette, première face, page 36. Marie lui donna une cuvette d'eau et un savon. Il sortit, mit la cuvette sur un banc, trempa le savon dans l'eau et le déposa sur le banc, retroussa ses manches, versa délicatement l'eau par terre, rentra dans la cuisine et commença à se frotter énergiquement la figure avec le torchon pendu derrière la porte. Marie lui retira le torchon des mains. « Tu n'as pas honte, Tom ? L'eau n'a jamais fait de mal à personne. » Interloqué, Tom ne sut que dire. Remis en présence de la cuvette, il poussa un profond soupir et s'exécuta. Un moment après, les yeux fermés, il rentra dans la cuisine à tâtons, cherchant le torchon. L'eau de savon qui lui dégoulinait de la figure semblait témoigner de louables efforts de sa part. Mais après essuyage, il devint évident que la partie nettoyée de la figure de Tom formait un masque s'arrêtant au menton et aux pommettes. Au-delà de ses limites s'étendait une zone qui n'avait pas participé aux bienfaits des ablutions. Avec l'aide de Marie, la peau de Tom finit par prendre une teinte uniforme. Ses cheveux, légèrement humectés, étaient bien brossés, ses boucles symétriquement disposées de part et d'autre de son front. Aussitôt qu'il fut seul, il s'appliqua laborieusement à lisser sa chevelure et à aplatir ses boucles qui le remplissaient d'amertume parce qu'il trouvait que cela faisait fille. Puis Marie sortit de l'armoire, incomplet, réservé au dimanche depuis 2 ans, qu'on appelait « ton autre vêtement », ce qui nous permet de connaître l'étendue de sa garde-robe. Quand il fut habillé, la jeune fille passa une dernière inspection. Elle ramena le col de sa chemise par-dessus sa veste qu'elle déboutonna, lui donna un coup de brosse et le couronna de son chapeau de paille. Il avait un tout autre air, mais paraissait mal à l'aise. Et il l'était. Car tous ces vêtements, toute cette propreté impliquaient une politique de contrainte qui l'exaspérait. Il espérait pourtant que Marie oublierait ses souliers, mais là encore, son espoir fut déçu. Elle les passa consciencieusement au suif, selon la coutume, et les lui porta dehors. Il se fâcha et prétendit qu'on ne lui faisait jamais faire que des choses qui ne lui plaisaient pas. Mais Marie tint bon. « Allons, allons, Tom, sois gentil !» Et il mit ses souliers tout en grommelant. Marie fut bientôt prête et les 3 enfants se mirent en route pour se rendre à l'école du dimanche, au grand plaisir de Sid et de Marie et au grand désespoir de Tom. Le cours avait lieu de 9h à 10h30 et était suivi de l'office religieux. Parmi les garçons, il y en avait toujours 2 qui restaient au sermon volontairement et d'autres pour des raisons plus péremptoires. Il y avait dans l'église d'inconfortables bancs permettant d'asseoir 300 personnes. L'église elle-même était petite, très simple, avec un clocher de bois. À la porte, Tom resta en arrière et aborda un camarade. « Dis donc, Billy, t'as un bon point jaune ?»«
Oui. »«
Tu veux me le céder ?»«
Bah, ça dépend ce que tu en donnes. »
Un bout de réglisse et un hameçon. Fais voir. Tom s'exécuta. Le marché fut conclu. Puis Tom échangea 2 billes contre 3 bons points rouges et quelques autres bricoles contre 2 bons points bleus. Il arrêta d'autres camarades au passage et leur acheta toute une série de bons points de couleurs diverses. Un quart d'heure après, il pénétrait dans l'église avec un groupe de garçons et de filles, bruyants et endimanchés. Il se rendit à sa place et se prit aussitôt de querelle avec un voisin. Le maître, un homme âgé et grave, intervint, puis s'occupa d'autre chose. Tom tira les cheveux du camarade assis devant lui. Celui-ci se retourna, mais il trouva Tom absorbé dans sa lecture. Peu après, Tom piquait un autre camarade avec une épingle jusqu'à ce qu'il ait crié « Aïe !» ce qui lui valut une nouvelle réprimande. Tous les élèves de la classe étaient pareils. Turbulent, dissipé, insupportable. Quand le moment vint de réciter les versets de la Bible, aucun d'eux ne se montra capable de le faire.
il fallait les leur souffler d'un bout à l'autre. Néanmoins, il suffisait de réciter à peu près convenablement deux versets pour avoir un bon point bleu. Chacun finit par y arriver. 10 bons points bleus s'échangeaient contre un bon point rouge, 10 bons points rouges s'échangeaient contre un bon point jaune, et pour 10 bons points jaunes, l'inspecteur remettait à l'élève une Bible reliée qui, en ces temps heureux, pouvait bien valoir 2,50 francs. Combien de nos lecteurs se résoudraient à apprendre par cœur 2000 versets de la Bible, même pour recevoir une Bible illustrée par le grand illustrateur Gustave Doré, D-O-R-E accent aigu. Et pourtant, Marie avait ainsi gagné deux Bibles, résultant de deux années de travail opiniâtre. On disait qu'un petit garçon d'origine allemande en avait gagné 4 ou 5 en récitant 3000 versets sans s'arrêter. Mais après un pareil effort, il en était resté à moitié idiot. Ce qui fut une grande perte pour l'école du dimanche, car dans les grandes occasions, en présence d'une assistance choisie, l'inspecteur, comme disait Tom, faisait briller son élève. Seuls les plus anciens gardaient patiemment leur bon point jusqu'à ce qu'ils aient gagné une Bible. C'est dire que la distribution d'une Bible était un événement rare et considérable. La désignation d'un lauréat créait une émulation telle qu'elle se prolongeait une quinzaine de jours au-delà. Obtenir un prix, l'ambition de Tom n'allait peut-être pas jusque-là. Toutefois, la gloire et la célébrité qui en résultaient ne le laissaient certes pas indifférent. À l'heure dite, l'inspecteur était devant l'estrade et réclamait le calme. Il avait à la main un livre de cantiques, son index entre deux pages. Quand un inspecteur de l'école du dimanche prononce l'allocution traditionnelle, il est de règle qu'il ait toujours un livre de cantiques à la main, tout comme l'artiste qui chante un morceau de concert tient à la main une feuille de papier à musique. Pourquoi ? Personne n'en sait rien, car l'inspecteur ne consulte pas plus son livre que l'artiste ne regarde sa feuille de papier. L'inspecteur était svelte, il pouvait avoir environ 35 ans. Ses cheveux d'un blond roux étaient courts, sa barbe était taillée en bouc. Son col empesé, dont le bol supérieur lui atteignait presque les oreilles et dont les pointes se recourbaient en avant à la hauteur des coins de sa bouche, était fendu de telle sorte qu'il l'obligeait à regarder droit devant lui et à tourner tout le corps quand il devait regarder de côté. Son menton dominait une cravate aussi longue et aussi large qu'un billet de banque et dont les extrémités se terminaient par des franges. Les pointes de ses souliers étaient recourbées vers le haut, à la mode d'alors, comme des patins de traîneau. Il fallait, pour obtenir ce résultat, que les jeunes gens s'assissent devant un mur contre lequel ils pressaient patiemment et laborieusement leurs orteils des heures durant. Monsieur Walters, W-A-L-T-E-R-S, était un très brave homme, à l'aspect austère. Il professait un tel respect pour les choses et les lieux du culte, il les distinguait si radicalement des choses mondaines et matérielles, que malgré lui, sa voix des dimanches n'avait pas la même intonation qu'en semaine. Il commença en ces termes. « Mes enfants, je vous demande d'être aussi tranquille que possible et de m'accorder une ou deux minutes d'attention. » Là, c'est parfait. C'est ainsi que doivent faire des enfants bien élevés. J'aperçois une petite fille qui regarde par la fenêtre. Peut-être pense-t-elle que je suis perché sur un de ces arbres en train de faire un petit discours aux oiseaux. Sourires approbateurs. Je peux vous dire combien je suis heureux de voir tant de petits visages intelligents réunis en ce lieu pour apprendre à faire le bien et à bien se conduire, etc., etc., etc.
tous les discours de ce genre se ressemblent et vous les connaissez trop pour que j'éprouve le besoin de vous rapporter la suite. Le dernier tiers du discours fut troublé par une reprise d'hostilité entre garçons et d'autres manifestations de leur activité, ainsi que par les chuchotements et les bavardages gagnant de proche en proche, sans toutefois réussir à dissiper ces modèles d'incorruptibilité et de sagesse qu'étaient Sid et Marie. L'agitation finit en même temps que le discours de M. Walters, dont la fin fut accueillie par un silence reconnaissant. Les chuchotements avaient été provoqués par un événement assez rare. L'entrée de visiteurs, en l'espèce, le juge Thatcher, T-H-A-T-C-H-E-R, accompagné d'un vieillard à cheveux gris et d'une dame imposante qui, sans aucun doute, était sa femme. La dame donnait la main à une petite fille. Jusque-là, Tom avait été insupportable. Il bougeait tout le temps, il s'agitait, il geignait. Il éprouvait aussi des remords de conscience à en juger les manœuvres auxquelles il se livrait pour ne pas rencontrer le regard d'Amy Lawrence, dont il n'aurait pas pu supporter les œillades enflammées. Tu te rappelles que c'est cette fille qu'il a laissée tomber pour la belle inconnue. Mais quand il vit la nouvelle venue, il ne tient plus en place. Dès lors, il n'eut d'autre préoccupation que de se faire remarquer. Immédiatement, il commença à bousculer ses camarades, à leur tirer les cheveux, à faire des grimaces. En un mot, il mit en œuvre toutes les ressources de son imagination pour attirer l'attention d'une jeune fille et, croyait-il, pour gagner son admiration. Son allégresse n'était tempérée que par le souvenir de l'humiliation subie dans le jardin de sa nouvelle passion, souvenir écrit sur le sable et promptement effacé par les vagues de bonheur qui, à présent, l'envahissaient. On donna aux visiteurs la place d'honneur, et dès que M. Walters eut terminé son allocution, il les présenta aux élèves. Le vieux monsieur se révéla être un personnage considérable, quelque chose comme le juge du comté, certainement la plus haute autorité que les enfants aient encore vue. Un comté, aux États-Unis, c'est un peu plus petit qu'un département en France. Ils étaient curieux de voir comment était fait quelqu'un d'aussi important et aussi de l'entendre parler tout en ayant un peu peur. Il venait de Constantinople, une ville des États-Unis située à quelques 20 kilomètres de Saint-Pétersbourg où habitait Tom. Il avait donc vu du pays et il siégeait au tribunal du comté dont on disait qu'il avait un vrai toit de zinc. Tu sais qu'aux États-Unis, beaucoup de villes ont des noms de villes d'Europe. Il y a plusieurs Paris aux États-Unis, Constantinople, c'est Istanbul, la ville de Turquie, et Saint-Pétersbourg, c'est bien sûr la ville de Russie. Et tout ça, ce sont de petits et modestes patelins aux États-Unis, mais qui impressionnent beaucoup les enfants. Le silence impressionnant qui régnait et la fixité de tous les regards témoignaient du respect provoqué par ces considérations. Il ne s'agissait de rien moins que du grand juge Thatcher, frère de leur propre avoué. C'est une espèce de notaire, un avoué aux États-Unis, ou d'avocat. Jeff Thatcher s'approcha immédiatement de son père et du grand homme pour prouver qu'il était sur un pied d'intimité avec le dernier et exciter la jalousie de toute la classe de l'école du dimanche. Que n'aurait-il donné pour entendre les chuchotements ? « Regarde-le, Jim, le voilà qui monte. Dis donc, il va lui serrer la main. Il lui serre la main. Oh ! Que je voudrais être à sa place. » L'inspecteur, succombant à son tour à l'envie de se faire remarquer, allait et venait, donnait des ordres et des contre-ordres, s'occupait de tout et de rien. Le bibliothécaire, lui aussi, courait ça et là, les bras chargés de livres, faisant rendre le maximum au peu d'autorité qu'il avait. Les jeunes institutrices faisaient ce qu'elles pouvaient pour attirer l'attention, complimentant aujourd'hui l'élève qu'elles avaient rudoyé la veille, faisant des effets de doigts en parlant à l'un, en avertissant l'autre. Les jeunes professeurs grondaient celui-ci, faisaient des recommandations à celui-là, les uns et les autres ayant comme par hasard affaire à la bibliothèque près de l'estrade, ce qui les amenait à s'y rendre deux ou trois fois avec de grandes démonstrations d'activité. Les petites filles s'agitaient et les garçons s'envoyaient les uns aux autres des boulettes de papier. Le grand homme, assis, regardait les uns et les autres avec une sérénité souriante et se complaisait au spectacle de sa propre grandeur, car il se faisait valoir lui aussi. Au bonheur de M. Walters, il ne manquait qu'une chose, pouvoir exhiber un élève prodige à qui il remettrait une Bible en prix. Quelques élèves avaient plusieurs points jaunes, mais aucun n'en avait assez. Il s'en était assuré. Ah, il aurait donné n'importe quoi pour avoir sous la main ce petit garçon allemand à la mémoire si extraordinaire. À ce moment précis, où tout espoir paraissait interdit, Tom Sawyer s'avança, muni de 9 bons points jaunes, 9 bons points rouges et 10 bons points bleus. Tom Sawyer réclamait une Bible. Coup de tonnerre dans un ciel serein. Walters n'avait pas envisagé qu'une demande de ce genre pût se produire avant 10 ans. Mais il n'y avait pas à tergiverser. Les bons points étaient là, signés par lui et parfaitement en règle. Tom prit place sur l'estrade, à côté du juge et des autres personnages de qualité, et la grande nouvelle fut officiellement proclamée. Depuis plusieurs années, on n'avait rien vu de pareil. L'événement était tellement sensationnel que la renommée du nouveau héros s'égala à celle de ses juges et que les spectateurs eurent en face d'eux 2 célébrités au lieu d'une seule. Les garçons en étaient malades de jalousie. Les plus vexés étaient ceux qui se rendaient compte, mais un peu tard, qu'ils avaient eux-mêmes contribué à cette gloire maudite en échangeant avec Tom leurs bons points contre des objets qu'il lui avait donnés la veille pour avoir le droit de badigeonner la palissade. Ils se mordaient les pouces de rage d'avoir été les dupes de cette audacieuse supercherie. Le prix fut décerné à Tom en grande pompe, avec toute l'effusion dont l'inspecteur était capable étant donné les circonstances. Tout au plus manquait-il un peu de conviction. L'instinct du pauvre homme lui faisait en effet pressentir l'existence d'un mystère qu'il eût peut-être été dangereux d'éclaircir. Il était difficile d'admettre que ce gamin, précisément celui-là, ait emmagasiné la substance de 2000 versets des Écritures dans un cerveau qui était manifestement hors d'état d'en assimiler plus d'une douzaine. Amy Lawrence était heureuse et fière et elle essayait de le montrer à Tom, mais il ne faisait pas du tout attention à elle. Un vague soupçon qui devint vite un doute sérieux s'empara de la pauvre fille. Un clin d'œil de Tom la renseigna. Son cœur se brisa, elle devint jalouse, pleura, elle se mit à détester tout le monde et Tom par-dessus tout. Du moins le croyait-elle. Tom fut présenté au juge, mais sa langue fut comme paralysée. Il n'osait pas respirer, il défaillait presque. D'abord parce que le personnage était terriblement imposant. Ensuite, parce qu'il était son oncle à elle. Le juge posa sa main sur la tête de Tom, l'appela un brave petit homme et lui demanda son nom. Le gamin bégaya, haleta et finit par dire « Tom ».
Non, pas votre diminutif. Votre nom?
Thomas.
C'est cela, je pensais bien que votre nom était plus long. Mais vous en avez un autre et vous voudrez bien me le dire, n'est-ce pas?
Allons, dites à monsieur le juge quel est votre nom de famille, Thomas, dit Walters. Et dites, monsieur, n'oublions pas les convenances. Thomas Sawyer, monsieur.
Bien, voilà un gentil garçon et intelligent. 2000 versets, ce n'est pas mal et c'est même très bien. Et vous n'aurez jamais le regret de la peine que vous aurez prise. L'instruction, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. C'est elle qui fait les grands hommes, les bons citoyens. Vous serez vous-même un jour un bon et grand citoyen, Thomas. Vous jetterez un regard en arrière et vous vous direz « Tout ce que je sais, je le dois à l'instruction que j'ai reçue dans ma jeunesse, à l'école du dimanche. Je le dois aux bons maîtres qui m'ont enseigné, au bon inspecteur qui m'a encouragé, qui m'a surveillé et qui m'a donné une belle, une magnifique Bible que j'ai gardée toute ma vie. Tout cela est le résultat d'une bonne éducation. » Voilà ce que vous direz, Thomas. Et ces 2000 versets que vous avez appris, en vérité, vous ne les échangeriez pas pour tout l'or du monde. Maintenant, voudrez-vous bien me dire, et à cette dame aussi, quelques-unes des belles choses que vous avez apprises? Je suis sûr que vous ne refuserez pas, en petit garçon studieux que vous êtes. Certainement, vous connaissez les noms des 12 apôtres. Voulez-vous dire le nom des deux premiers?
L'air penaud, Tom tirait nerveusement sur une boutonnière de sa veste. Il rougit et baissa les yeux. Monsieur Walters sentit le cœur lui manquer. Il n'est pas possible, se disait-il, que ce gamin sache répondre à la question la plus simple. Pourquoi diable le juge lui a-t-il demandé cela? Et presque malgré lui, il put parler. « Répondez à monsieur le juge, Thomas, n'ayez pas peur !» De rouge, Thomas devint cramoisi.
« Allons, vous me le direz bien à moi, dit la dame. Les deux premiers apôtres étaient... »«
David et Goliath, monsieur. Peut-être vaut-il mieux tirer sur la fin de cette scène ?» Le voile de la charité. Tu sais en effet que Goliath était un énorme géant qui vivait plusieurs siècles avant les apôtres de Jésus et que David est le jeune homme qui a vaincu ce géant avec une pierre lancée par une fronde et qui est devenu ensuite roi des Juifs. Chapitre 5. Chien contre Cancrelat. Un cancrelat, C-A-N-C-R-E-L-A-T, c'est une espèce de scarabée, d'insecte. Vers 10h30, la cloche fêlée de la petite église commença à sonner et les gens se réunirent pour entendre le sermon du matin. Les élèves de l'école du dimanche se disséminèrent dans l'église et occupèrent les bancs aux côtés de leurs parents, qui tenaient à les garder sous leur coupe. Tante Polly s'installa, Tom, Sid et Marie s'assirent près d'elle. Tom étant placé près de l'allée, le plus loin possible de la fenêtre ouverte et des distractions que l'été lui offrait à profusion. Peu à peu, toutes les places furent occupées par les notabilités de l'endroit. Le vieil et nécessiteux receveur des postes, le maire, car entre autres inutilités, il y avait un maire et sa femme, l'avoué Riverson, R-I-V-E-R-S-O-N, nouveau venu qui habitait dans le voisinage, ensuite la belle du village, suivie d'une troupe de godelureaux endimanchés, puis groupée, tous les jeunes employés de bureau de la ville, admirateurs pommadés et minaudants, qui en suçant le pommeau de leur canne, avaient attendu sous le péristyle que la dernière jeune fille ait affronté le feu de leur regard. Enfin, l'enfant modèle, Willie Mufferson, W-I-2-L-I-E, plus loin M-U-2-F-E-R-S-O-N, qui prenait autant de soin de sa mère que si elle eût été faite de cristal taillé. Il conduisait toujours sa mère à l'église et toutes les mères de famille le citaient en exemple. Aussi était-il détesté par tous les garçons. Il était si parfait et on leur en avait si souvent rebattu les oreilles qu'ils en avaient par-dessus la tête. Son mouchoir blanc pendait hors de la poche de l'arrière de sa jaquette négligence étudiée à laquelle il s'astreignait tous les dimanches. Tom, lui, n'avait pas de mouchoir et traitait de poseur, de frimeur, ceux qui en portaient un. La cloche sonna encore une fois à l'appel des retardataires, puis dans l'église, un silence solennel régna, qui n'était troublé que par les chuchotements des choristes dans la tribune. Les choristes ne faisaient que rire et chuchoter pendant tout le service religieux. Il était une fois, paraît-il, une chorale d'église dont les membres n'étaient pas mal élevés. Mais où se trouvait cette chorale? Je l'ai oublié. Il y a longtemps de cela, et je ne peux guère me rappeler quoi que ce soit à ce sujet. Mais je crois que c'était à l'étranger et dans un pays très lointain. Le pasteur indiqua le cantique et en donna lecture avec ce ton de voix particulier qui faisait l'admiration de toute la région.
« Serais-je emporté vers les cieux par les chemins aisés de la facilité, alors que d'autres combattent pour remporter le prix et font voile sur les mers tachées de sang ?»
On le considérait comme un lecteur merveilleux. Aux réunions paroissiales, c'était toujours à lui qu'on faisait appel pour lire des vers. Les auditrices, en extase, levaient les mains qu'elles laissaient ensuite retomber sur leurs genoux et hochaient la tête comme pour dire « Il est impossible d'exprimer ce que nous éprouvons. C'est une émotion supraterrestre. » L'hymne, une fois chanté, le révérend Monsieur Sprague, S-P-R-A-G-U-E, le pasteur, se transforma en un bulletin de nouvelles. Il donna sur les réunions, les fêtes, les événements de la localité, des détails dont l'énumération semblait devoir durer jusqu'au jugement dernier. Étrange habitude qui persiste en Amérique, même à notre époque, où la presse est si développée. Il semble que moins une coutume se justifie, plus elle soit dure à déraciner. Puis le pasteur pria. Il pria beaucoup et pour beaucoup de monde. Pour l'église, pour les enfants de l'église, pour les autres églises du village, pour le comté, pour l'État, pour les représentants de l'État, pour les États-Unis, pour les églises des États-Unis, pour le Congrès, pour le président, pour les ministres, pour les marins voguant sur les mers lointaines, pour des millions de primés gémissant sous la botte de monarques européens et de despotes orientaux, pour ceux qui ont des yeux et qui ne voient point, pour ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent point, pour les infidèles et les païens disséminés aux quatre coins du monde. » Le pasteur termina en exprimant le vœu que ses prières soient exaucées et que ses paroles tombent comme le bon grain dans la bonne terre, afin d'y porter leurs fruits.
« Ainsi soit-il !»
Il y eut un froissement de robe et les fidèles s'assirent. L'enfant dont nous racontons l'histoire, Tom, n'avait guère apprécié ce sermon. Il l'avait supporté non sans une certaine agitation. Les détails de cette prière, il les savait par cœur. Et si le pasteur y apportait la moindre modification, il le remarquait aussitôt et s'en indignait comme d'une déloyauté. Pendant la prière, une mouche était venue se poser sur le dossier du banc devant Tom. Elle se mettait les pattes sur la tête et se la frottait si vigoureusement qu'il semblait qu'elle allait la détacher de son corps. Avec ses pattes de derrière, elle se nettoyait les ailes et se les rabattait le long du corps comme les pans d'un habit. Elle faisait sa toilette avec le sentiment qu'elle était en parfaite sécurité. Ce qui était d'ailleurs bien le cas. Non que les mains de Tom ne lui démangeassent du désir de l'attraper, mais parce qu'il croyait fermement attirer sur lui la colère divine s'il bougeait avant que la prière ne fût terminée. À la dernière phrase, sa main esquissait déjà un mouvement. Et dès que le mot « ainsi soit-il » eût été prononcé, la mouche était faite prisonnière. Mais sa tante l'avait vu faire et l'obligea à libérer le malheureux insecte. Fin de la première face de la deuxième cassette,
Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 48.